Bonjour, bienvenue dans Le Fil de l'Histoire, la nouvelle émission d'histoire de France Inter, du lundi au vendredi à 14h. Une émission à podcaster au jour le jour ou dans son intégralité sur le site de France Inter ou sur l'appli Radio France. Cette semaine, nous allons tenter d'élucider un mystère. Comment se fait-il que les Françaises aient dû attendre 1944 pour avoir le droit de voter et ainsi pouvoir participer pleinement à la vie civique de leur pays ? Le droit de vote, les Néo-Zélandaises par exemple, l'obtiennent en 1893, comme les femmes du Far West américain ou celles des minuscules îles Cook dans le Pacifique. La plupart des grands États européens l'accordent avant 1914 ou dans l'entre-deux-guerres. Bientôt rejoint pêle-mêle par la Turquie, la Birmanie, le Brésil, la Thaïlande et j'en passe. Mais, au pays de la Révolution de 1789, que s'est-il donc passé ? Les hommes en France sont-ils plus misogynes qu'ailleurs ou les femmes moins combatives ? Après 150 ans de combat, il faudra entre-temps deux guerres mondiales pour qu'enfin ce droit soit reconnu aux Françaises. Un combat dont les combattantes furent longtemps isolées, moquées et ridiculisées, suffragistes ou suffragettes. On a en tête les images de ces défilés clairsemés de femmes sous de grands chapeaux, brandissant des pancartes « La femme veut voter ». Mais il y eut plus ridicule qu'elles. Les arguments ou les simples sourires de la classe politique masculine, majoritairement obstinée à ne rien lâcher. Mais pourquoi en France ce combat fut-il si difficile ? Contre quel mur invisible se battait-elle ? Et les hommes, de droite comme de gauche, de quoi avaient-ils peur, consciemment ou inconsciemment ? L'accès des femmes aux politiques mettait-il en danger les fondements mêmes de la société ? Toute cette semaine, on tente de répondre à ces questions avec vous, Anne-Sara Bouglé-Mohalik. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, chercheuse associée au laboratoire Istémé de l'Université de Caen.
France Inter, Le Fil de l'Histoire, Stéphanie Duncan.
Exiger que tout projet de réorganisation de l'État comporte le vote des femmes. Merci.
Dans le livre que vous avez consacré à l'histoire du vote des Françaises, Anne-Sara Bouglé-Mohalik, vous racontez une légende assez incroyable qui remonte à l'Antiquité. D'après cette légende, rapportée par le philosophe Aristote, la naissance d'Athènes, berceau de la démocratie, serait intimement liée au vote des femmes, ou plutôt à leur non-vote. Vous allez voir, c'est édifiant. À cette époque très ancienne, la ville d'Athènes n'a pas encore de nom. Un jour, les habitants voient un bel olivier sortir de terre. Un autre miracle survient, l'apparition d'une source. Pour interpréter ces signes, le roi fait appel à Apollon de Delphes qui lui explique que l'olivier est un don de la déesse Athéna et la source du dieu Poséidon. Les habitants, dont les femmes, sont appelés alors à voter pour désigner celui qui, des deux, donnera son nom à la cité. Résultat, les hommes votent pour Poséidon, tandis que les femmes choisissent Athéna. Et comme les femmes sont plus nombreuses d'une voix, c'est Athéna qui est élue. Mais Poséidon, jaloux, furieux d'avoir été doublé, pour se venger, lance une énorme tempête sur la ville. Le roi, afin d'apaiser Poséidon, décide de donner trois punitions aux femmes. La première, leurs enfants ne porteront pas leur nom. La deuxième, on ne les appellera pas Athéniennes. Et la troisième, elles ne voteront plus jamais dans les assemblées. Voilà donc, d'après cette légende, comment dès la plus haute antiquité, les femmes ont perdu le droit de vote.
On voit bien ici le rôle d'une forme de masculinité toxique, puisque c'est par la force qu'on va retirer ce droit aux Athéniennes. Alors évidemment, c'est une légende, et ça vient bien nous indiquer un point très important, qui est que toute notre conception de la politique en Occident, et pas seulement en France, est liée à cette vision des Athéniens d'une société extrêmement hiérarchisée entre les hommes et les femmes d'un côté, mais aussi une société de citoyens et d'esclaves.
Bien sûr.
Et en fait, on a, au fil du temps, reporté ces différentes catégories jusqu'en effet au XVIIIe, XIXe siècle.
« je parlais des suffragettes, mais bien avant les suffragettes, il y a eu la Révolution française, à laquelle, dès 1789, les femmes participent activement, que ce soit dans la rue ou dans les clubs politiques. Femmes éduquées ou femmes du peuple, on se souvient de celles qui marchent par exemple jusqu'à Versailles pour réclamer du pain. Et déjà dans les cahiers de doléances, des femmes dans toute la France demandent à être représentées en politique. Dans le bouillonnement d'idées qui s'exprime en 1789, la question du vote féminin est donc très tôt mise sur la table. Parmi les partisans des femmes, il y a Condorcet, le député Condorcet, qui écrit un texte très moderne sur l'admission des femmes au droit de cité. Les femmes, dit-il, ayant les mêmes qualités que les hommes, ont nécessairement des droits égaux. Et à l'argument selon lequel les femmes agissent et pensent plus en fonction de leur corps maternel qu'en fonction de leur esprit, Condorcet répond, non sans un certain humour, il serait difficile de prouver que les femmes sont incapables d'exercer les droits de cité. Pourquoi des êtres exposés à des grossesses et à des indispositions passagères ne pourraient-ils exercer des droits dont on n'a jamais imaginé de priver les gens qui ont la goutte tous les hivers et qui s'enrhument aisément? Mais Condorcet est isolé. Le député Sieyès, lui, pour décider qui votera, distingue les citoyens actifs des citoyens passifs. Son passif, les étrangers, les enfants, les serviteurs, les mendiants, les fous et les femmes. Mais il précise les femmes dans l'état actuel. Une vague promesse pour l'avenir, dirons-nous. Et il y a bien sûr Olympe de Gouges, qui en 1792 publie sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, où elle réclame que les femmes, au même titre que les hommes, puissent être représentées dans une assemblée nationale, qu'elles puissent participer à l'écriture des lois et exercer les mêmes fonctions politiques qu'eux. L'article 10 de sa déclaration, resté célèbre, est prémonitoire. La femme a le droit de monter à l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune. Prémonitoire, puisqu'Olympe de Gouges sera elle-même guillotinée en 1793, année où les clubs féminins sont fermés et les femmes priées de retourner à leur fourneau. La récréation est finie, la même année, Condorcet meurt alors qu'il est menacé d'arrestation et en fuite. Anne-Sara Bouglé-Mohalik, comment expliquer que la Révolution française exclut si vite les femmes de la vie politique alors qu'elles sont déclarées citoyennes?
Il y a à cette époque une conception de la famille qui prime en fait sur la conception de l'individu. La Révolution française, on est vraiment à ce moment clé de notre histoire où l'individu commence à sortir un petit peu dans toutes ses spécificités par rapport à justement ces hiérarchies sociales dont on parlait avec les Athéniens. Donc là, on est dans un moment de crispation comme ça, mais où on considère encore que le noyau de la société, c'est la famille. La famille, elle est représentée par le père. Et il y a d'ailleurs encore cette question qui se pose sur les jeunes adultes, même hommes, qui, au début de la Révolution, n'ont pas de droit parce qu'ils sont encore non émancipés et sous la coupe du père. Et c'est pour ça qu'on considère la famille comme un objet politique en soi. Et on ne peut pas donner, à ce moment-là, on ne conçoit pas qu'il puisse y avoir deux voix potentiellement discordantes dans la famille, l'homme et la femme.
Est-ce que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen exclut les femmes de manière consciente ou inconsciente?
À la fois, la question est quand même posée dans l'espace public par quelques personnes. Vous avez cité Condorcet ou Olympe de Gouges. Donc il y a cette perception que les femmes pourraient éventuellement avoir davantage de droits. Et en même temps, il y a quand même cette forme d'inconscient dans lequel la femme fait partie de la famille et donc n'a pas ses droits. Et elle n'est même pas considérée vraiment comme exclue. Elle n'est juste pas incluse comme citoyenne active. Et il y a une subtilité là qu'il faut percevoir, sinon on aura des difficultés à comprendre notamment ce qui se passe au XIXe siècle.
Merci Anne-Sara Bouglé-Moalic. Alors que la révolution se veut universelle, elle va tracer une frontière qui sera tenace, l'espace public pour les hommes, l'espace domestique pour les femmes. Cette exclusion va marquer tout le 19e siècle, renforcée par le Code Napoléon, puis sous la Restauration. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la révolution de 1848 qui va instaurer le suffrage universel, un grand espoir pour les femmes, pour les féministes de l'époque. Mais ce grand moment démocratique, encore une fois, exclura les femmes du suffrage. Universel, vous avez dit ? Mais nous le verrons, même les féministes ne seront pas d'accord entre elles. À demain, 14h04.